Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h21, on est en direct, évidemment, dans le Club des Idées, avec le débat maintenant. Ce soir, quelle réponse face au trafic et à l'insécurité, et si la solution était de dépénaliser le cannabis? Oui, vous avez bien entendu, c'est ce que réclament de nombreux spécialistes, et même certains policiers, car disent-ils, le caractère illégal du cannabis suscite et alimente les trafics, et donc, au bout du bout, l'insécurité. Alors faut-il dépénaliser, comme l'ont fait d'autres pays, avec quel résultat à la clé, sur la sécurité, mais aussi sur un plan sanitaire, évidemment. On en parle ce soir avec nos invités. Jean-Pierre Coutron, vous êtes psychologue et porte-parole de la Fédération Addiction. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Stanislas Goudon, vous êtes délégué général du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir.
Bonsoir
à vous. Avec Anne Coppel, également sociologue, spécialiste des drogues, auteur de « Sortir de l'impasse » aux éditions La Découverte. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, sera également tout à l'heure en liaison avec nous. D'abord, question pour vous Jean-Pierre Coutron, est-il vrai de dire que la France est l'un des pays les plus stricts en matière de cannabis et pourtant, l'un des pays où l'on en consomme le plus?
Oui, je vais me appeler l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. On a la législation la plus sévère, on pourra discuter de son éventuelle application, c'est l'argument qui est souvent donné, mais on a la législation la plus sévère depuis longtemps. Beaucoup d'autres pays ont choisi de simplifier l'interdit autour du cannabis, et on a des chiffres qui nous mettent toujours parmi les plus grands consommateurs, alors premier, deuxième...
Ça, c'est incroyable. Voilà.
Et non,
fumer du cannabis, fumer du shit, comme l'on dit, fumer de la marijuana.
Et avec des caractéristiques, une troisième caractéristique qui est que ça reste toujours un public jeune, c'est-à-dire le public qui est sanitairement, si on avait des préoccupations de santé, le plus en danger. Donc c'est une mauvaise politique.
Ouais, quelques chiffres pour fixer les choses d'abord. 17 millions de Français déclarent avoir déjà pris du cannabis. Près d'un million. 1 million en consomme régulièrement. 42% de la population de 15 à 64 ans a déjà consommé une fois dans sa vie du cannabis. Et la moyenne européenne, c'est un chiffre intéressant à comparer, est à 18,9%. Anne Coppel, ça veut dire que le tout répressif en France sur le cannabis, ça ne fonctionne pas, si l'on regarde ces chiffres.
Ah bah c'est clair, ça, il n'y a pas de doute sur la question, hein. Je pense que ça a été évalué à plusieurs reprises, c'est pour ça que c'est un peu désespérant, c'est toujours pareil, hein. Mais il y a eu, je pense par exemple à la politique qui a été menée avec Sarkozy, avec l'idée qu'il fallait des sanctions systématiques, que c'était parce que les magistrats étaient laxistes, parce qu'il n'y avait pas des sanctions systématiques, qu'on avait de mauvais résultats, c'est-à-dire être un des premiers consommateurs de cannabis, au moins en Europe. Et cette politique, il a essayé de la mettre en place, effectivement. Il y a eu déjà des choses de fait. Et c'est la même année, on a eu une augmentation de la consommation.
Alors justement, pour désengorger les tribunaux, puisqu'on parle de la réponse sécuritaire, si j'ose dire, les tribunaux et les commissariats, depuis une semaine maintenant, les usagers sont désormais sanctionnés par une amende forfaitaire, 200 euros. Alors concrètement, les usagers qui sont en possession d'un maximum de 50 grammes de cannabis, ça fait quand même pas mal, hein, 50 grammes, peuvent se voir infliger une amende de 200 euros, ramenée à 150 euros si elle est payée sous les 15 jours. Mais précise l'arrêté, l'usage des stupéfiants reste évidemment un délit. Si l'amende met fin aux poursuites, elle entraîne tout de même une inscription des faits au casier judiciaire. Stanislas Goudon, vous êtes donc délégué général du syndicat Alliance Police Nationale. Est-ce que, au vu des chiffres, on peut admettre que le tout répressif, oui, ça ne fonctionne pas contre le cannabis? Alors, ma question est la suivante, et puis après je vous laisse répondre. Est-ce que cette amende forfaitaire, ça peut changer les choses d'une certaine manière?
Alors d'abord, le tout répressif, il faut savoir qu'il n'a pas été appliqué. Hein. Il suffit de regarder notamment le rapport qui a été adjoint notamment au texte de loi qui a introduit l'amende forfaitaire délictuelle, où il y a un état notamment des sanctions qui sont prononcées. Oui. Sur 60 000, il y a 44 000 rappels à la loi, il y a 8 000 injonctions thérapeutiques, donc c'est très très peu, effectivement.
Mais on ne va pas enfermer tous les fumeurs de pétard.
Million, non mais j'ai pas parlé d'emprisonnement. Oui. Je dis même les injonctions thérapeutiques, il n'y en a que 8 800 sur 60 000. Donc ça vous donne un peu une idée de la réponse qui est apportée à ce fléau, parce que c'est un fléau. Parce que la drogue, ça génère d'autres choses que simplement le problème de santé publique.
C'est tout le sujet de notre débat ce soir. Est-ce que du coup, légaliser ça ne permettrait pas de supprimer tout le trafic qui va autour et qui pèse beaucoup dans l'insécurité qu'on connaît aujourd'hui. On va en parler juste après la pause.
Oui,
votre
oui.
réponse courte.
D'accord, on ne parle pas de l'amende forfaitaire délictuelle ou on en parle
allez-y,
après.
Allez-y.
Alors l'amende forfaitaire délictuelle, en fait, c'est une réponse d'abord aux citoyens. Qui sont au quotidien empoisonnés par des points de deal, des points de revente. Et c'est vrai que c'est pour s'attaquer à ça. Ce n'est pas pour s'attaquer au trafic, soyons très clairs. Le trafic national et international,
c'est pour dissuader les usagers.
Ça, c'est l'office central. Dissuader aussi un peu quand même les dealers, oui. Et puis notamment les guerres de territoire. Parce qu'une fois qu'on aura assaini ces points de deal, là, peut-être qu'on parlera d'autre chose. Mais de l'autre côté, et ça ne peut pas marcher sans cette lutte, notamment contre les trafics nationaux et internationaux, et ça, c'est de la compétence notamment de l'OFAST, hein, le nouvel oui. en fait, office central qui a remplacé l'OCTRI, où là, ils s'attaquent en fait aux gros réseaux, notamment mafieux, enfin on les appelle de tous les noms que l'on veut.
Voilà. Bien, c'est bien de rappeler les éléments de contexte. Maintenant, on va s'attaquer à cette question. Faut-il légaliser pour supprimer les trafics ? On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on parle toujours dans le débat du Club des Idées de la légalisation, de la dépénalisation, peut-être demain du cannabis. En tout cas, ça fait débat pour lutter contre les trafics et contre l'insécurité dont on parle beaucoup en ce moment dans le débat public. Alors, juste avant la pause, on évoquait cette amende forfaitaire mise en place depuis une semaine par le gouvernement, 200 euros pour un usager, pour un consommateur ou pour un dealer s'il est pris avec moins de 50 grammes de shit, d'herbe ou de cannabis. Est-ce que ça fonctionne, Philippe Astruc ? Je voulais votre regard sur la question. Vous êtes procureur de la République de Rennes. Est-ce que ça peut permettre, d'une certaine manière, de faire baisser le trafic et d'avoir une incidence sur la consommation de cannabis en France ?
Alors, le présenter comme un remède miracle serait très excessif. Est-ce que ça peut être un outil utile ? Oui, je le pense. Je crois qu'on est tous d'accord autour de ce micro pour tenter de réduire, par des voies et moyens peut-être différentes, mais de réduire l'usage de stupéfiants dans notre pays. Il me semble que l'amende forfaitaire délictuelle, c'est un outil de responsabilisation.
Oui, vous mais avez ça évoqué peut vraiment des millions être dissuasif.
Il me semble, parce que pour certains, il y a un usage récréatif et il peut y avoir des changements de comportement que nous appelons tous de nos voeux, je crois. C'est pas une fatalité. Regardez l'insécurité sur les routes, la vitesse sur les routes.
Oui.
Lorsqu'on a renforcé la probabilité de la sanction en matière de vitesse, ben chacun a changé un petit peu de comportement. Donc on peut quand même espérer qu'en renforçant le degré de certitude de cette sanction, qui reste à des hauteurs raisonnables,
oui.
on peut envoyer un message utile au corps social.
Alors, pour poursuivre dans le débat, puisque notre sujet c'est la dépénalisation entre guillemets au service de la baisse des trafics et de l'insécurité, quelques chiffres d'abord. Le business de la drogue en France, ça pèse plus de 3 milliards d'euros par an pour un coût social estimé à 8 milliards d'euros. Et là-dedans, le cannabis génère plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires aux trafiquants. Alors dans le détail, il y a plus de 1000 individus têtes de réseau en France qui, en moyenne, font, écoutez bien, 380 000 euros de gains annuels. Sous leurs ordres, on dénombre 10 000 grossistes, avec chacun près de 65 000 euros de chiffre d'affaires, 92 000 semi-grossistes et au bout du bout, 133 000 vendeurs de rue. Il y a quelqu'un dans le débat public, c'est le maire PS de Sevran, qui a été confronté à des problèmes de drogue assez importants, Stéphane Gatignon, qui explique souvent que sans cannabis, c'est la fin des trafics. Sans cannabis, c'est la fin des trafics. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Pierre Coutron ? Est-ce qu'il faut légaliser, dépénaliser pour faire baisser les trafics ?
Oui, il faut changer le fonctionnement actuel, il faut réguler. Le procureur vient de dire quelque chose sur lequel moi je veux débattre avec lui ou répondre. C'est l'histoire de la conduite automobile.
Hein. Oui.
La conduite automobile, elle n'est pas prohibée. Rouler vite, ce n'est pas prohibé, c'est régulé. Ce qui est sanctionné, c'est l'excès. Ce qui fait que la
Donc
sanction
vous prenez
marche,
la même analogie.
Ce qui fait
il faut pas interdire, il faut réguler.
Il faut réguler. Ce qui fait que la sanction marche automatique dans la vitesse, c'est que j'ai le droit de prendre ma voiture, j'ai le droit de rouler, mais je dois respecter un certain nombre de règles. Si je ne l'ai pas fait entretenir, si je n'ai pas le permis de conduire, si je ne suis pas assuré, si je roule plus vite selon le type de route. La régulation, c'est ça. Ce n'est pas vouloir tout prohiber, c'est faire la part du feu, faire la part du jeu et dire on ne pourra plus, avec les chiffres de millions de personnes que vous avez donnés, espérer assécher le marché. Il y a un marché, il faut le réguler,
alors,
il faut l'organiser.
Je vous pose la même question très simple, comme ça, a priori. Stanislas Godon, vous êtes délégué général du syndicat Alliance Police Nationale. Pour le policier et pour l'institution policière que vous représentez, est-ce que si demain le cannabis n'est plus interdit comme il l'est aujourd'hui, c'est la fin des trafics ?
Non. Et je pense même qu'il y aura certainement un transfert d'ailleurs. Alors attention, parce que souvent on nous a caricaturé en disant qu'il y aura un transfert de consommation, notamment sur des drogues peut-être plus compliquées comme la cocaïne, le MDMA. Mais en fait, non, il y aura un transfert, à mon avis, des trafics. Est-ce que vous pensez une seule seconde que d'abord les trafiquants vont oublier les 1 milliard d'euros que vous avez cités sur le cannabis? Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est exemple, en matière en France, santé publique.
Sur la question des trafics, c'est intéressant parce que c'est un argument qui revient souvent. Mais si je prends l'analogie, de l'alcool et des cigarettes. Il y a quelques trafics de cigarettes, de fausses cigarettes un peu moins chères. Mais l'alcool, il n'y a pas de trafic d'alcool. On va au magasin, on achète son alcool. Est-ce que demain, ça ne peut pas être pareil pour le cannabis?
Justement, c'était l'objet du deuxième élément que je voulais évoquer. D'abord, si vous dépénalisez, vous allez dépénaliser quel produit? Quel taux de THC? Parce que ça, c'est un élément important. Vous savez que si jamais le taux de THC est trop faible, le trafic, il sera tout aussi important puisque les personnes iront chercher un taux de THC plus important.
C'est ce qui suscite l'effet, le THC, c'est ça?
Oui, c'est le...
Alors, le produit actif
hydrocannabinol.
Voilà, oui. Qui est en fait la substance psychotrope. Hein,
mais il n'y a pas que le THC, il y a le CBD, il y a d'autres.
Bien et sûr, là encore, mais c'est la substance...
du côté des usagers, c'est plus nuancé que ça.
D'autre part...
Donc vous dites si le cannabis n'est pas suffisamment fort dans les magasins qui demain pourraient le distribuer, on va se tourner vers les dealers.
Le troisième élément, dépénaliser, donc ça veut dire que les gens vont consommer en fait du cannabis de manière occasionnelle, régulière.
Oui.
On a déjà un problème en matière de circulation routière avec l'alcool. Quand vous allez avoir des personnes qui vont fumer, la combinaison de l'alcool et du cannabis, il me semble avoir vu quelques études...
Vous sous-entendez qu'il y aura plus de gens qui fumeront demain si c'est légalisé?
Qui fumeront plus, et puis surtout dans des circonstances où ce sera libéré. Donc libéré peut-être avec notamment le volant. Alors, et cet élément-là, il est important à souligner parce que sinon, on va risquer de partir encore à la hausse avec des morts sur les routes, puisque, comme je le disais, la combinaison notamment des deux éléments fait que vous augmentez, je crois, par 7 ou 9 le risque accidentogène en matière de circulation routière.
C'est une question très intéressante, ce que vous soulevez. Anne Coppel, peut-être vous pouvez répondre. Vous êtes sociologue, spécialiste des drogues. Est-ce que si demain le cannabis est légalisé, est-ce qu'il y aura plus de fumeurs de pétards qu'aujourd'hui? On peut comparer peut-être à ce qui s'est passé dans les pays étrangers. Certains États américains l'ont fait, aux Pays-Bas ils l'ont fait, au Canada ils l'ont fait. Est-ce qu'il y a eu une hausse, au Portugal aussi je crois, est-ce qu'il y a eu une hausse de la consommation?
Non, il n'y a pas eu de hausse de la consommation. Alors maintenant, on peut peut-être mettre une limite, c'est-à-dire que tout dépend aussi de la façon dont on le fait, hein, si on choisit le business ou si on choisit la santé publique. Mais malgré tout, globalement, il n'y a pas eu de hausse de la consommation. Et du point de vue des trafics, il n'y a pas élimination des trafics, mais il y a pacification.
Donc là, pacification, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est moins violent.
Ah oui.
C'est moins lourd,
vous avez des
moins
exemples,
violent.
Des
oui,
exemples
oui, je peux vous donner plein d'exemples. D'ailleurs, le premier que je vais citer, c'est le Portugal, alors qu'ils n'ont pas légalisé. Hein, ils ont seulement dépénalisé. Les usages.
Mais et il y a eu une baisse de la criminalité.
Il y a eu une baisse de la criminalité parce que c'était aussi leur objectif. Leur objectif, c'était de mieux contrôler le petit trafic. C'est-à-dire, l'objectif des policiers, c'est quand même de garantir la sécurité. Oui. Ce n'est pas de lutter contre la drogue.
Bien.
Et je voudrais aller plus loin. C'est que lutter contre la drogue, c'est un problème de prévention de santé.
Bien.
Et ça marche.
Et vous nous direz pourquoi dans quelques secondes. À tout de suite, 19h37, on continue de parler de ce débat légalisé ou pas le cannabis pour lutter contre les trafics. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le grand débat du Club des Idées, 19h39, on est en direct bien sûr et ce soir on parle de la dépénalisation ou de la légalisation du cannabis pour lutter contre les trafics. Certains affirment que cela pourrait être une bonne idée et une réponse. Et c'est vrai que c'est un sujet qui dure depuis longtemps, cette histoire de légalisation du cannabis. Certains pays européens ont sauté le pas, on en parlait juste avant la pause avec nos invités, et qui électrise, je vais y arriver, le débat public. Par exemple, Emmanuel Macron, quand il était candidat à la présidentielle en 2016, il disait ceci.
Aujourd'hui, le cannabis pose un problème de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes, et donc on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Mais en même temps, j'entends les préoccupations de santé publique qui sont émises par ailleurs. Ce n'est pas un sujet qui est léger, mais je ne suis pas contre, pour un principe, là aussi, d'efficacité et de justice, au fond.
Je ne suis pas contre, disait le candidat Macron en 2016, Emmanuel Macron président en octobre 2019.
Je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis ou à des usages non encadrés. Parce que là, pour le coup, j'ai jamais vu d'études robustes montrant que ça n'avait pas d'effet sur la vigilance, particulièrement des plus jeunes. Par contre, le cannabis thérapeutique, c'est vrai, a des vertus, donc dans le cadre de traitement, en particulier pour réduire les douleurs ou accompagner le traitement des douleurs.
Voilà, on sent qu'il y a une différence d'approche entre le candidat et le président, Jean-Pierre Coutron.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais d'ailleurs, il y a un certain nombre de ministres de l'Intérieur qui, quand ils n'étaient pas encore ministres, quand ils étaient ministres, puis quand ils n'étaient plus ministres, ont tenu aussi des positions très évolutives, et pas des moindres.
Alors, Philippe Astruc est toujours avec nous, procureur de la République de Rennes, avec nous par téléphone. Merci d'avoir patienté. Peut-être d'abord un mot de réaction sur tout ce qui a été dit ici en studio Europe Soir. Et puis, votre sentiment, vous, sur cette légalisation, au vu des chiffres que j'évoquais tout à l'heure et du trafic que ça représente aujourd'hui en France et donc de l'insécurité que ça génère, est-ce qu'une légalisation ou une dépénalisation pourrait faire baisser l'insécurité, selon vous ?
Alors, moi, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ce débat. Faut-il légaliser ou pas ? Le travail d'un procureur, c'est d'essayer d'appliquer la loi telle qu'elle est. La loi telle
Mais vous avez forcément un avis sur la question.
De 1970, qui, en fait, sur l'usage, considère à la fois l'usager comme un délinquant et à la fois comme une personne malade et a développé les injonctions thérapeutiques. Donc, on voit toute la complexité du sujet. Je pense qu'il faut se garder, je dirais, d'illusions. Hein. Je pense que le problème de fond, c'est les addictions. Alors là, on en parlait de drogue, mais on a, je crois, un vrai problème d'addiction dans notre pays, y compris en matière d'alcool. Et on voit que beaucoup d'infractions sont liées à des consommations excessives. Donc ça, je crois que c'est le problème de fond. Après, les illusions, vous savez, on a oublié tout ça, mais l'histoire est un perpétuel recommencement. En 1882, l'État français produisait de l'opium. C'est la régie de l'opium oui. Indochine. C'est vrai. En 1916, on a, devant la catastrophe que ça a été, on a une loi qui vient poser la prohibition que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc il faut se garder de toute illusion. Il me semble que le mieux, ça serait de pouvoir marcher utilement sur deux jambes, c'est-à-dire oui. la jambe responsabilisation, de façon à ce qu'on ait peut-être moins d'usagers, et l'AFD stupéfiant permet peut-être d'y parvenir, et la voie, bien sûr, je dirais, de la réduction des risques, c'est-à-dire toute la voie santé publique qui doit être, je crois, qui ne doit pas être perdue de vue et qui doit être développée. Il me semble que c'est en marchant sur deux jambes qu'on avance le mieux.
On entend votre message. Merci Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. C'est vrai que, pour revenir à ma question, Stanislas Godon, vous êtes délégué général du syndicat Alliance Police Nationale, faire baisser la pression aussi sur les effectifs policiers avec demain peut-être une légalisation ou une dépénalisation, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée pour désengorger les commissariats, pour désengorger les prisons et puis pour vous concentrer sur la réalité de la délinquance, c'est-à-dire les gangs?
Alors, d'abord, la pression, en fait, il n'y en avait pas vraiment sur l'usage de stupéfiants, puisque...
Mais ça vous occupe,
on savait que, ah bah oui, ça nous occupe 1 million d'heures. Oui. Plus d'1,2 million d'heures.
Mais est-ce que vous avez le temps d'arrêter
pour les procédures, pour les usagers, notamment...
Les petits usagers, ça vous prend.
Est-ce que
ça
vous... Après, nous, on applique la loi, hein, quand même,
bien
les policiers.
Bien
voilà.
sûr.
Donc, il y a une loi, on l'a fait appliquer.
Sur la lutte contre les trafics.
Maintenant, dans la lutte contre les trafics, enfin encore je le redis, hein, c'est pas le policier de voie publique qui va résoudre le trafic national ou international, soyons assez lucides sur le sujet. Maintenant, comme le disait le procureur, marcher sur deux jambes, oui, le volet répressif, le volet effectivement prévention, et ça bien sûr, je pense les interventions notamment dans les écoles, moi je sais qu'il faut que ce soit fait très très tôt pour éviter notamment que la tentation n'arrive trop tôt. Mais juste un élément quand même,
oui.
si on raisonne et on n'arrête pas de raisonner en matière de consommation, c'est-à-dire qu'on dit, bon bah puisqu'il y a plus en plus de consommateurs, et ben dans ce cas-là on légalise. Aujourd'hui, nous sommes dans l'explosion de l'usage de la cocaïne par exemple. Est-ce qu'on va faire exactement le même raisonnement ? Et là, on va générer un autre problème de santé publique et un autre problème aussi, oui. je le redis, par rapport à la gestion notamment des flux financiers.
Mais les Pays-Bas parce que les flux financiers sont énormes. Par exemple, le cannabis sans légaliser, me semble-t-il, la cocaïne.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est dans un raisonnement
on peut faire
consommation, on légalise, on s'arrête où ?
Bien. On continue d'en parler dans un instant, une dernière pause et puis dernière partie du débat, on s'intéressera notamment à ce phénomène d'addiction, est-il réel ou pas avec le cannabis ? Et puis, qu'est-ce que font les autres pays aussi sur la question de la légalisation ? On ira notamment aux Pays-Bas, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
19h47, on se retrouve pour la dernière partie du grand débat du Club des Idées. Ce soir, on parle du trafic et de l'insécurité. Si la solution était de dépénaliser, comme l'affirment certains, le cannabis pour faire baisser les trafics et donc, au bout du bout, faire baisser l'insécurité. On en parle donc ce soir avec nos invités. Anne Coppel, vous êtes sociologue et spécialiste des drogues. Je voulais vous entendre sur ce phénomène de l'addiction au cannabis. D'abord, est-il réel ? Et est-ce que, pardon de cette question un peu naïve, mais est-ce que c'est parce qu'on commence avec du cannabis qu'on va finir forcément à prendre de la cocaïne ?
Écoutez, y a 7 millions de gens qui consomment du cannabis dans l'année.
Oui.
Y en a pas 7 millions qui prennent de la cocaïne.
Bon, et le caractère d'addiction avec le cannabis, il est réel ?
C'est-à-dire y a une dépendance au cannabis qui est relativement modeste et qui n'est pas aussi violente que l'addiction à la cocaïne, à l'alcool, qui est la pire de toutes.
Oui. Bon, et je vous pose la question parce que est-ce que si demain on légalise, ça peut poser un problème de santé publique
C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, ça n'est pas un problème de loi, c'est un problème de marché.
Problème de marché.
Voilà. Donc, quel que soit le dispositif, vous avez des pays très répressifs qui ont des mauvais résultats. C'est le cas de la France. Mais il y en a d'autres qui ont des bons résultats. Enfin, bref. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport aux conduites addictives, on a un outil, c'est la prévention, l'information, la responsabilité. On peut les sanctionner tant qu'on veut, ça ne change rien. Mais par contre, on a l'expérience. Parce que si vous voulez, on n'est plus dans le domaine des opinions aujourd'hui. On sait, il y a des faits qui ont été établis à partir de... on sait que quand on fait appel à l'éducation, quand on fait appel à la responsabilité, on a moins de consommateurs. C'est le choix qu'a fait les Pays-Bas. Ils ont 4 fois moins de consommateurs que nous pour les jeunes.
Justement... Madame Coppel, justement, je vous coupe parce qu'on va plonger dans nos archives Europe 1. C'est une séquence qu'on vous propose, chers auditeurs, tous les soirs. On prend du recul, on plonge dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre. Vous allez comprendre pourquoi on plonge dans les archives ce soir. Ça s'appelle Le Jour Où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1. Bonsoir Victor Delande.
Bonsoir Julien.
Avec vous, on va s'intéresser à cette première fois. La première fois où allumer un joint dans un café est devenu possible. Le jour où la dépénalisation est rentrée en vigueur aux Pays-Bas, c'était il y a plus de 40 ans. On fait un petit saut en arrière dans le temps.
Oui, 44 ans exactement. Nous sommes en 1976 quand le gouvernement de l'époque décide de dépénaliser les drogues douces. Alors dépénalisation, légalisation, on s'y perd un peu. Cette gérante de coffee shop nous aide à y voir plus clair dans les volutes de cannabis.
On a du cannabis léger, plus fort, du hashish, des joints et des pipes à cannabis. Ça, c'est 5 grammes. Tu peux acheter maximum 5 grammes par jour, tu n'iras pas en prison. Mais ce n'est pas totalement légal, c'est permis. C'est très bizarre, mais c'est la Hollande.
Et concrètement, qu'est-ce qui est possible pour le consommateur ?
Alors, la vente de drogue douce reste punissable, mais le ministère public hollandais ne poursuit pas en justice les coffee shops qui respectent les règles. On parle de tolérance pour les consommateurs. Ils ont le droit de posséder 5 grammes et de cultiver 5 plants d'herbe chez eux, pas plus. Alors forcément, quand les Pays-Bas décident de dépénaliser le cannabis, les fumeurs de joint de l'époque hallucinent totalement.
C'est juste incroyable d'avoir nos endroits pour fumer en toute tranquillité. On est devenu le pays emblème du cannabis.
J'ai encore l'impression que c'est irréel. Fumer comme ça sans être inquiété, c'est dément.
Quel projet quand on y pense, à Amsterdam. Je pense à nos dirigeants qui ont eu un immense courage politique d'aller jusqu'à la dépénalisation.
J'ai 54 ans, je fume depuis 40 ans et pour la première fois de ma vie, je n'ai plus besoin de me cacher, je n'ai plus peur. Et pour une fois, je suis aussi fier de mon pays. Et vous verrez, plein de pays nous rejoindront vite. Allez, n'ayez plus peur, faites comme les Pays-Bas.
Voilà, et on est en 1976, peut-être un peu après, quand le gouvernement a donc décidé de dépénaliser le cannabis. Et c'est vrai, comme le dit ce monsieur, que ça fait débat partout en Europe, en France notamment.
Oui, en France, Monique Pelletier est chargée par le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, d'écrire un rapport sur les drogues. Elle ne prône la dépénalisation du cannabis, mais son projet restera dans les cartons, jugé trop laxiste. En revanche, les consommateurs français, eux, sont de plus en plus nombreux à lorgner les Pays-Bas. Les coffee shops sur place s'adaptent et proposent de la vente par correspondance, comme l'explique le correspondant dans le Nord d'Europe 1, Jean-Claude Jens, en 1988.
Effectivement, le catalogue en question est envoyé à toute personne qui en fait la demande. 20 pages en quadrichromie, énumérant 31 espèces de plantes hallucinogènes, avec tous les conseils nécessaires pour les cultiver dans votre potager ou dans votre bac à fleurs. The Marijuana Seed Catalogue annonce les prix. $35 US les 15 graines de l'espèce la plus vulgaire, $60 les 15 graines de skunk, qui est au hashish ce que l'orchidée est à la rose. Au cours actuel du dollar, ça devient donné.
Alors forcément, c'était en 1988, Julien. Alors depuis, les choses ont un tout petit peu évolué. vous pouvez acheter en quelques clics tout ce qui se rapporte de près ou de loin au cannabis.
Alors, si on devait faire un bilan 44 ans après la dépénalisation, est-ce que c'est convaincant ou c'est contrasté, Victor ?
Alors, c'est plutôt contrasté. Une commune sur quatre aux Pays-Bas dispose d'un coffee shop. Ils font partie du paysage, de la culture même, si j'ose dire. Et curieusement, les habitants consomment beaucoup moins que les Français. 24% des adultes affirment avoir déjà fumé un joint aux Pays-Bas, contre 41% des Français. Mais d'un autre côté, la criminalité en rapport avec les drogues a augmenté depuis 40 ans aux Pays-Bas. Et puis, deuxième mauvais effet, sur le tourisme. On visite la Hollande avant tout pour ses coffee shops, comme le concèdent ses étrangers.
Dans le centre, par exemple, ici, on a beaucoup de touristes qui viennent parce que ça fait partie de l'expérience à Amsterdam.
Bah, je suis là pour fumer. Sinon, il n'y a rien d'autre. Hein.
Aujourd'hui, je suis allé trois fois dans un coffee shop.
On vient d'y aller et on a acheté 7 space cakes.
Voilà, et depuis, face à cela, il y a eu un tournevis des autorités.
Oui, exactement. Une loi votée en 2012 et appliquée dans 3 provinces du sud du pays. Elle interdit la vente aux non-résidents et aux touristes. C'est le cas à Maastricht notamment. Mais pas encore à Amsterdam, qui fait de la résistance verte.
Bien. Et vous, votre consommation de cannabis, vous en êtes où, Victor ?
Non, pas énormément.
Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Merci, merci, Victor Delande.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Voilà, c'était une blague, évidemment. Stanislas Godon, vous êtes délégué général du syndicat Alliance Police Nationale. Tout n'est pas rose, donc, avec le cannabis légalisé. On vient de l'entendre. Hein, ça suscite aussi beaucoup de tourisme, d'opportunisme, cette légalisation.
Oui, je crois même que d'ailleurs Amsterdam a eu à un moment un petit problème aussi avec les drogues un peu plus compliquées, autres que le cannabis. Donc il avait fallu réguler aussi pour ça. Et le pouvoir public avait mis un peu le paquet aussi sur la répression pour pas qu'il y ait justement un transfert.
Jean-Pierre Coutron.
Oui, enfin, ce que montre le reportage, c'est que pour les Hollandais, ça marche bien. Le oui. problème qu'ils ont, c'est que ça sert de point d'appel pour des pays qui n'assument pas une politique aussi raisonnable. Et les autres problèmes de drogue dus à la Hollande, soyons objectifs, ça relève de l'OFAST, c'est que quand on est le plus grand pays importateur par les ports, c'est une porte d'entrée de l'ensemble des substances illicites. Voilà. Mais sur l'expérience hollandaise, en termes de santé, par rapport aux enfants hollandais, par rapport à la jeunesse hollandaise, ils sont largement devant nous depuis le début, grâce à cette politique, parce qu'ils ont baissé le côté illicite et ils ont augmenté le côté prévention. Bien. Et c'est quelque chose auquel ils tiennent très fort.
Bon,
et ils
ont raison. Qu'on pourrait poursuivre pendant des heures. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est maintenant terminé. 19h56.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, de la musique, de la détente, Émilie Mazoyer. Salut Émilie.
Salut Julien,
quel
comment allez-vous?
Quel est le programme ce soir?
Ce soir, on va recevoir un jeune chanteur israélien dont la voix est un mélange un peu étrange entre Janis Joplin et Robert Plant. Il s'appelle...
One day, baby, we'll be old.
Ah, Asaf Avidan.
Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
Ça, c'est son premier tube, One
Bien
Day
sûr.
Reckoning Song. Et à la fin de la semaine, il va sortir un nouvel album qui porte le nom savant de Anagnorisis.
Pas mal. Et il est donc ce soir à vos côtés
oui.
pour en parler. Bon,
exactement.
Bah génial. On a hâte. On va écouter tout ça avec beaucoup d'attention. Merci, Émilie. À tout de suite. 19h56, on se retrouve nous demain, même lieu, même heure, le 18-20. On écoute Le Monde Changer, évidemment, sur Europe 1.